talmudique. Le retour en grec se dit nostos. Algos signifie souffrance, la nostalgie, et donc la souffrance causée par le désir inassouvi de retourner, écrit Kundera dans son roman intitulé L'ignorance. On comprend dès lors que si la nostalgie était un sport olympique, Ulysse, Odysseus en grec, en serait le champion, car il passa sa vie dans le désir de retourner à Ithaque et de retrouver Pénélope. Ce dont Catherine II de Russie se souvint très certainement quand elle choisit le nom de la nouvelle ville qu'elle fit construire comme capitale de la Nouvelle-Russie en 1794, à laquelle elle donna le nom d'Odessa, féminin d'Odysseus, inscrivant dans ce nom ce qui allait devenir le destin de cette ville, celle vers qui se tourne toujours le désir d'y revenir, comme dit une formule d'Anne Gorouben, « On ne va pas à Odessa, on y revient ». Odessa, la ville aux sept langues, Odessa la belle, la conviviale, l'insouciante, la raffinée, Odessa la douce, ses boulevards et ses acacias blancs, la mer et son grand escalier, le soleil et la lune, ses marins et ses bandits, ses marchands et ses musiciens, et ses chats et ses chiens qui rôdent la nuit et chantent l'invitation au retour. Odessa la juive aussi, car les juifs composaient, à la veille de la Première Guerre mondiale, plus d'un tiers de la population. Odessa, ville blessée aujourd'hui par la guerre et les tensions idéologiques qui la traversent, blessée aussi par le passé, par les pogroms dont elle fut le théâtre sanglant, mais dont elle réussit toujours à se relever, affaiblie, mais jamais détruite. Oui, Odessa, on y revient. Et ce retour, nous le ferons aujourd'hui et la semaine prochaine en compagnie d'Isabelle Nemirovski, docteur de l'INALCO, fondatrice et présidente de l'association Les Amis d'Odessa et auteur d'un très beau livre intitulé « Histoire, mémoire et représentation des Juifs d'Odessa », sous-titré « Un vieux rêve intime ». Isabelle Nemirovski, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Moiklin.
Isabelle Nemirovski, c'est un très grand plaisir de vous recevoir. Une occasion de vous remercier pour ce rêve d'Odessa que vous nous offrez dans ce très beau livre. Comment vous est venue cette passion pour Odessa ?
Cette passion me vient de mon père, de sa passion pour la musique étant à Odessa absolument centrale. C'était un virtuose du piano, il nous expliquait que son père, juif d'Odessa, arrivé ici à Paris, lui demandait de l'accompagner pour chanter des chants liturgiques et classiques, de musique classique. Deuxième point, c'est le petit ouvrage de Sandrine Trainer, directrice de France Culture, « Le goût d'Odessa » que ma fille un jour m'a rapporté en 2005, qu'elle a trouvé dans une librairie et en revenant très heureuse avec son trophée, elle m'a montré ce petit livre en me disant « Tu vois Odessa, aujourd'hui je te l'amène, je l'ai trouvé et il est pour toi ». Et en fait, grâce à ce petit ouvrage qui est petit par la forme mais profond dans son fond, j'ai pu avoir les panneaux indicateurs ça m'a servi de guide pour pouvoir mener mon chemin dans les rues d'Odessa. Voilà.
Une recherche qui a été aussi une thèse de doctorat.
Absolument. Mais c'est vrai qu'avant qu'elle soit une thèse de doctorat, il y a eu ce premier goût d'Odessa par Sandrine Trainer. Puis, 2-3 ans après, une évocation durant mes études, c'était au moment de la licence, où j'ai évoqué les origines familiales et une des profs de l'INALCO, où j'ai fait donc ces études, m'a dit « Est-ce que ça vous intéresse ?» J'ai dit « Oui ». Eh bien, elle me dit « Écoutez, c'est parti ».
Voilà, donc vous êtes petite fille d'un habitant d'Odessa et tous les spécialistes d'Odessa qui décrivent Odessa ou lorsqu'il s'agit d'Odessa, disent que l'imaginaire importe autant que la réalité pour son pouvoir de séduction et pour la magie qu'elle a exercée sur les créateurs. Par exemple, Marie-Paul Vial dit que Odessa mériterait de figurer sur une carte de l'imaginaire avec le titre de capitale. Comment faut-il comprendre cette formule, Isabelle Nemirovski, et qu'est-ce que vous appelez un vieux rêve intime?
Il y a la phrase inaugurale de l'ouvrage de Valentin Kataïev qui s'appelle « Les catacombes » qui dit très exactement « C'était un vieux rêve intime de Pétia, faire un voyage à deux ». En fait, l'enfant n'a qu'un seul désir, c'est partir à Odessa avec son père, sans sa sœur, sans sa mère, parce que là-bas, on parle d'une effervescence qui l'attire et qui le fascine. Vieux, je viens de faire une association, en fait, c'est déjà pour cet enfant qui est jeune.
Dans ce roman dont vous parlez.
Ce roman dont on parle, un vieux, pour lui aussi, un vieux rêve intime. Vieux, c'est pour moi plutôt la signification de persistant, d'entêtant, de là depuis toujours. Et pourquoi intime ? Parce que confidentiel, parce que tout le monde n'a pas accès, parce qu'il y a une idée de voyage initiatique, de cercle des initiés. Cette expression, je l'ai trouvée presque à la fin de l'écriture de ma thèse, et ça a été presque aussi un eureka, mais voilà, l'essence de ce travail, c'est ce vieux rêve intime que je veux essayer d'expliquer au monde.
Isabelle Némirovski, vous venez d'évoquer les catacombes. Il paraît qu'à Odessa, ce sont les catacombes les plus importantes et les plus impressionnantes au monde. Il y a des puits dans ces catacombes qui vont jusqu'à 36 mètres sous terre. D'où viennent ces catacombes qui sont d'ailleurs aujourd'hui un vrai problème parce que la ville, par certains côtés, s'affaisse. D'où viennent ces catacombes ?
Tout à fait. En fait, au moment de la construction de la ville, on avait besoin de pierre. C'est une des rares villes de Russie où on a construit des édifices en pierre. Les maisons étaient dans d'autres endroits, étaient en bois. Et donc, on a extrait les pierres dans le sous-sol. Et on en a extrait beaucoup. Et on a réussi à avoir des galeries jusqu'à 200 km de long. Et ces galeries, ces catacombes, sont devenues un endroit d'invisibilité pour les partisans pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont permis la défense et la résistance de la ville d'Odessa. Et qui, aujourd'hui, est aussi un endroit stratégique pour la résistance.
Alors, je pense, en imaginant ces catacombes, à une sorte de dualité de la ville, une ville visible en surface et une ville invisible en sous-sol, un petit peu comme un conscient et un inconscient de la ville. Est-ce que ces catacombes participent à ce vieux rêve intime, à cette non seulement la nostalgie mais la dimension du rêve? On sait avec Freud que le rêve est justement dans les sous-sols de l'esprit. Est-ce que les catacombes ont une fonction qui va dans ce sens?
Absolument. L'esprit d'Odessa est dans son sous-sol et dans son invisibilité. Ce que j'ai voulu faire aussi dans ce travail de recherche, quand on parle d'Odessa, ville mythique, etc., j'ai voulu comprendre quel était donc ce mythe, qu'est-ce qui composait ce mythe. Je me suis rendu compte très rapidement que la ville d'Odessa, du côté de la mer, était une vitrine opulente qui devait attirer, donc on avait des palais en première ligne. Mais ces palais en première ligne n'étaient qu'une vitrine. Et derrière, j'ai enjambé ces murs pour aller découvrir ce qu'il y avait au sein de cette ville. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait autre chose que tous les clichés qu'on a tendance à dérouler les uns derrière les autres. Odessa, c'est aussi la Moldavenka, le quartier, la petite Moldavie, le quartier des brigands, le terrain de la terre nationale, des bandits, des contes d'Odessa d'Isaac Babel. Tout ne se lit pas. Pourquoi une invisibilité, justement? C'est parce qu'on est incapable d'aller dans un endroit juif très particulier. Il n'y a pas de ghetto à Odessa. Il n'y a pas de quartier juif, même s'il y a une rue des Juifs. Mais toutes les empreintes juives sont disséminées dans la ville. Et d'ailleurs, une historienne, c'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant « Vous ne trouverez pas un endroit particulier, il faudra que vous vous déplaciez dans tous les coins pour repérer une empreinte juive. »
C'est peut-être cela qui a attiré les Juifs, justement, de ne plus être enfermés dans un ghetto. Et c'est peut-être ça aussi la nostalgie, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu une ville à un certain moment où les Juifs étaient citoyens du monde comme tous les autres, sans être stigmatisés comme ils l'étaient à l'époque.
Oui, tout à fait. C'est ça qui les a attirés. C'est ce que leur avait promis Catherine II quand elle a voulu les faire venir jusqu'à Odessa. Ils ont d'ailleurs trouvé, tout au long du XIXe siècle, les différents gouverneurs ont permis cette tolérance, ont continué à laisser les Juifs relativement libres jusqu'en 1881, l'assassinat d'Alexandre II, où là, la bascule s'est faite. Et on ne parle plus à partir de là du bonheur juif, mais on parle plutôt de la catastrophe juive. Quand j'emploie l'expression « bonheur juif », c'est un film, c'est le titre d'un film adapté d'un roman de mon écrivain préféré d'expression yiddish, Sholem Aleichem, Menachem Mendel le rêveur. Donc j'ai tiré ce titre de bonheur juif, mais le bonheur a été suivi de la catastrophe. Et la catastrophe, on sait ce qu'elle a été durant la Révolution, la guerre civile, la Deuxième Guerre mondiale et toutes ces catastrophes de l'histoire.
Et les Juifs sont formidables parce que lorsqu'il y a un bonheur juif et ensuite une catastrophe, ils oublient la catastrophe pour avoir la nostalgie du bonheur qu'ils ont connu.
Oui, c'est cette capacité à toujours, et c'est peut-être ça en fait la force des Odessites. C'est cette capacité de récupération et de renouvellement, et puis aussi de continuité.
Pour comprendre et approfondir ce vieux rêve intime, comme je l'ai évoqué dans ma présentation, c'est à Catherine II, impératrice de Russie, que l'on doit la création quasiment ex nihilo de cette ville. Quelles en furent ses motivations? Dans quel contexte historique, Isabelle Nemirovski?
Alors j'aime bien dire qu'au commencement d'Odessa et le verbe de Catherine II, c'est de créer un débarcadère sur un quai marchand. À l'origine, c'est une femme qui est très ambitieuse, qui a pour désir de s'inscrire dans les annales de l'histoire russe. Elle veut faire le pendant de Saint-Pétersbourg, créé un siècle plus tôt par Pierre le Grand, et donc essaye de se donner les moyens. Donc elle réussit à obtenir le littoral sur la mer Noire, qui va lui permettre aussi d'avoir des débouchés commerciaux. Et pour ça, elle mène des guerres russo-turques qu'elle finit par gagner. Et puis, quelque temps avant, il y a eu les partages aussi de la Pologne qui lui ont permis aussi de conquérir ce territoire. Oui, c'est quasiment ex nihilo, puisque c'était un terrain entouré de steppes. Il y avait juste un fortin turc avec un pacha, son harem. Et puis, en contrebas de ce fortin, il y avait 6 familles juives qui travaillaient du commerce du sel. Donc il y a une représentation d'ailleurs, un dessin de ces maisons en contrebas du fortin. Et on dit que ces familles viendraient sans doute de Crimée. Mais ce ne sont pas elles qui ont nourri cette branche des Juifs d'Odessa dont on va parler. C'est une autre branche qui viendra.
On va en parler tout de suite. Alors cette ville est d'emblée cosmopolite, il faut y insister très vite. La population juive va être présente de manière importante et cela mérite explication. Pourquoi les juifs de cette époque s'intéressèrent-ils particulièrement à cette ville excentrée et à peine sortie de terre, si l'on peut dire? Qu'est-ce qui fut le moteur de cette attraction? D'où ces juifs venaient-ils, Isabelle Nemirovski?
Alors ces juifs venaient de l'Empire russe, de la zone de résidence que Catherine II avait créée. Parce qu'elle avait hérité, entre guillemets, 1 million de juifs depuis les partages de la Pologne. Il faut savoir qu'avant, juste avant, les tsars n'acceptaient pas les juifs en Russie. Et donc, elle s'est demandé comment ce terrain qu'elle avait conquis, ce littoral, comment on pouvait l'aménager et grâce à qui. Et donc, elle a eu ce réflexe un peu utilitaire de se dire, eh bien, les Juifs, ça va être donnant-donnant. Si vous me donnez votre savoir-faire, moi, je vous donnerai la liberté de culte, une liberté de mouvement, une liberté d'exercer les domaines qui sont les vôtres, mais à condition d'aménager cette ville et de participer à ce chantier qui était assez pharaonique puisqu'il n'y avait rien à l'origine.
Et donc, ils sont venus de...
Ils sont venus de l'Empire, de tous les Shtetlers de l'Empire. C'est un mouvement migratoire de l'intérieur, principalement, concernant les Juifs.
Au XIXe siècle, il y avait de nombreux courants dans le judaïsme. Le courant orthodoxe, libéral, laïque, chassidique. Aujourd'hui, on pourrait parler de conservatifs, réformés, humanistes, que pour citer les plus classiques. Qui étaient les Juifs qui arrivèrent à Odessa? Et quelle évolution leur installation à Odessa provoqua-t-elle dans leur manière d'être juif, Isabelle Nemirovski?
Alors, les tout premiers juifs viennent donc de Shtetler, de petites bourgades juives dont la tradition était extrêmement forte. Ils ont en fait désiré sortir de cette vie qui était très souvent misérable, et ils ont entendu le vent de modernité qui soufflait dans cette ville, cette agitation qu'il y avait. Et donc, ils sont venus très, ce que je dis aussi, à pas feutrer sur ce chantier. Donc il y a une espèce d'écart tellement pour ces premiers juifs entre leur shtetl et cette grande ville.
C'est-à-dire que cette grande ville leur amène la modernité et les a invités à s'éloigner un petit peu de la tradition, ne serait-ce que de manière formelle, c'est-à-dire que je crois qu'ils se sont coupés la barbe, les papillotes, ils ont laissé tomber les longs caftans et les grands chapeaux pour avoir un aspect de citoyen classique de l'Empire.
Oui, tout à fait. Mais ça, alors ce sont les Juifs de Brody, de Galicie, de l'Empire d'Autriche-Hongrie qui sont arrivés à Odessa dans les, on dit que c'est dans les années 1820. Ils ont apporté avec eux leur commerce. Ils se sont dit que c'était un port qui était très prometteur pour le commerce. Et donc, ils sont carrément devenus sujets russes. Et ils ont déplacé leurs affaires et arrivé sur les lieux. Ils ont vu leurs coreligionnaires. Et ils leur ont expliqué la vie, on va dire ça comme ça, en leur disant effectivement qu'il fallait se moderniser et couper les paillasses, enlever le caftan, et puis pour s'adapter, pour s'intégrer à cette ville qui était très très prometteuse.
Largo facotum della città, largo. La 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 la. Presto bottega che va già. Presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità.
Nous sommes en train d'entendre Le Barbier de Séville, un opéra de Rossini qui date de 1816. On imagine qu'il a pu être donné à Odessa quelques années plus tard dans son théâtre construit dès 1810. Odessa devint très vite après sa naissance un lieu où s'est développée une intense activité culturelle et l'opéra joue un très grand rôle en général et pour les Juifs en particulier. Je pense à cette phrase que vous citez d'un visiteur russe parlant l'italien, l'une des langues amplement parlées à Odessa. Les Juifs d'Odessa sont particulièrement intéressés par la musique, Isabelle Némirovski.
Oui, je l'ai dit dès le début que mon père avait cette passion de la musique, un héritage de la ville d'Odessa, patrie de la musique. En fait, l'opéra, c'est l'institution qui est la plus vénérée dans la ville. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont repris les programmations pour dire à quel point le cœur se remet à battre avec la musique dans cette ville. Donc c'est un élément fédérateur de la population cosmopolite. Juifs et non-juifs se rencontrent, les populations qui viennent de tous les endroits d'Europe. La ville est polyglotte et elle est plus que polyglotte, elle a sa propre langue. Elle a développé ce que Boris Czerny appelle une langue vinaigrette, qui est en fait un mélange d'ukrainien, de polonais, de yiddish, de russe et d'hébreu. Et j'ai trouvé avec, un jour sur les étagères de la bibliothèque de l'INALCO, un petit ouvrage, un dictionnaire de 200 pages où sont répertoriés 2000 mots. Des expressions, une syntaxe, une phraséologie. C'est une langue à part entière. Elle est cryptée. C'est qu'on peut comprendre Odessa en passant aussi au travers de cette langue. Donc effectivement, un cosmopolitisme, beaucoup de langues, mais une langue particulière au sein même de ce cosmopolitisme.
Dont l'italien,
dont l'italien.
Une langue privilégiée, puisque ce sont les Italiens, les marins italiens qui ont été à l'origine aussi beaucoup de la création de cette ville. J'ai lu dans votre livre que les rues étaient en russe et en italien, le nom des rues. et que les papiers officiels, au départ, notariés, étaient en italien. C'était la langue administrative de Odessa à sa naissance.
Oui.
Isabelle Nemirovski.
Oui, tout à fait. Je pense aussi particulièrement à Pushkin qui écrit dans ses vers d'Eugène Onéguine que c'est, on entend la belle sonorité de la langue d'Italie. Donc l'influence italienne était absolument aussi très importante, comme l'influence française.
Et l'influence française, puisque la ville a été créée par le duc de Richelieu, qui est un descendant du cardinal, ce qu'on appelle là-bas le duc, je crois.
Le duc, parce qu'en russe, on ne peut pas prononcer le U.
Oui.
Donc ça se transforme tout de suite en duc, et le duc, oui. Un auteur d'Odessa, une femme, Nina Gorfinkel, écrit qu'il a tout fait pour cette ville. On lui doit tout. C'est effectivement un descendant du cardinal de Richelieu et qui a fui la Révolution, qui s'est réfugié à Odessa, qui a été nommé par Alexandre Ier pour s'occuper de la ville et qui a joué les Robinson Crusoe. L'Italie, c'est aussi l'architecture, c'est aussi évidemment la musique. Voilà, ce sont toutes ces influences qui se sont mélangées, croisées, contaminées.
Et qui fait donc d'Odessa une ville d'art. Tous les arts sont présents, pas seulement la musique, la poésie, la peinture et surtout, si on peut dire, la littérature. On insiste souvent sur la présence de Pushkin et de Gorki, mais ils ne furent pas les seuls. Dans le monde juif, c'est toute une pléiade de grands écrivains qui vont trouver à Odessa une terre d'inspiration, que ce soit en hébreu ou en yiddish. Parlez-nous de ces personnages que l'on nomme les sages d'Odessa, Isabelle Nemirovski.
Alors les sages d'Odessa, c'est donc un titre générique pour essayer de faire comprendre que cette ville a abrité des intellectuels, des artistes peintres, des artistes, des musiciens, ainsi que de nombreux écrivains. Alors les premiers écrivains venaient là pour écrire des carnets de voyage, parce que la ville les inspirait. Et puis au fur et à mesure du temps, donc on parlait donc de Pushkin, on parlait de Gorki, on parle d'Ivan Bounine, et puis le vrai cru odessite d'écrivains, ce sont ceux qui sont nés à la fin du 19e siècle et qui ont écrit dans les premières années du 20e siècle. Donc on a des artistes, des écrivains comme Mendele Moirersforim ou mon préféré Sholem Aleichem, qui écrivait sur la ville d'Odessa. Et la littérature est absolument fondamentale dans la compréhension de la ville. C'est pour ça qu'en fait, dans l'écriture de mon travail de recherche, de ma thèse, j'ai mis l'histoire d'un côté et la littérature de façon à ce qu'elles se complètent. L'histoire relate des faits, mais la littérature donne l'esprit, donne le goût, donne les saveurs, donne les visions des uns et des autres. Et Mendele se baladait régulièrement dans les rues d'Odessa pour récupérer des anecdotes qu'il consignait ensuite dans ses romans.
Romans, littérature, contes, légendes construisent donc le rapport à la réalité et à la ville. Les voyageurs ne manquent pas d'évoquer dans leur carnet qu'Odessa a été soumise à un enchantement de fées. Et il y a aussi l'humour, ce léger pas de côté qui maintient l'humain et qui est caractéristique, dont les odessites sont particulièrement fiers et qu'ils brandissent encore aujourd'hui comme une arme de résistance. Qu'est-ce que cet humour a de particulier? Quel rapport singulier au mot, à la fiction? Est-ce ici que s'exprimerait par excellence le creuset culturel d'Odessa dans l'humour, Isabelle Nemirovski?
C'est vrai que l'humour en soi est extrêmement important. Il y a d'ailleurs une fête qui s'appelle Humourina, tous les 1er avril de chaque année, durant toute la journée, des sketchs. En fait, c'est une façon de se, comme vous le disiez, une façon de se protéger, une forme de dérision, une sorte de bouclier. Et toutes les réalités passent par le filtre, effectivement, de l'humour. Alors, je vais vous citer une petite histoire. Un ami juif demande à un autre ami « Combien y a-t-il d'habitants à Odessa ?»« 300 000. »« Et combien de juifs ?»« Je viens de te le dire, 300 000.
» Odessa a aussi été dans le passé le théâtre d'événements tragiques. Je pense aux différents pogroms qui ont provoqué départs massifs vers l'Amérique et d'autres contrées à travers le monde. Toutes ces violences n'eurent pas la même origine. Le pogrom de 1905 fit plus tard l'objet d'une nouvelle parmi les plus poignantes d'Isaac Babel, intitulée « Histoire de mon pigeonnier ». Parlez-nous de ces violences, de ces pogroms, Isabelle Némirovski.
Quand on parle de 1905, on pense effectivement à la révolution, à la répétition de la révolution de 17. Mais c'est aussi le pogrom le plus sanglant qu'a connu la ville, qui ne se passe pas, contrairement à ce qui est souvent dit sur les marches, enfin en tout cas dans le film, mais au-delà de la, à l'intérieur de la ville. Il y a aussi, vous avez évoqué Isaac Babel, effectivement, qui parle de ce pogrom, mais il y a aussi un autre auteur qui s'appelle Alexandre Couperine, qui a écrit un recueil de nouvelles, dont une des nouvelles s'appelle Gambrinus. Et dans Gambrinus, c'est l'histoire d'une taverne dans laquelle viennent les dockers, les marins, les matelots. Et puis, il y a un violoniste qui met de l'animation, qui joue des airs juifs. Et tout le monde est ami avec ce violoniste. Et puis, le pogrom éclate et il se retrouve dans la rue. Et il croise un maçon qui fréquentait la taverne et qui ne le reconnaît pas et qui d'un seul coup se déchaîne dans une violence absolument énorme et qui le roue de coups. On peut passer d'une amitié dans cette ville aussi à une déferlante de haine, une sorte de barbarie qui est assez étonnante dans cette ville qu'on pensait être la ville effectivement de la tolérance, de la liberté, mais l'antisémitisme est toujours présent. Il y a eu des pogroms à Odessa durant le 19e siècle, mais c'était souvent dû à de la concurrence entre les Grecs et les négociants odessites juifs. Mais là, c'est une haine gratuite.
Vous voulez dire que les motivations de ces pogroms n'ont pas de cause ?
Elles ont une cause fallacieuse. C'est-à-dire que Alexandre II a été assassiné par des anarchistes et ce sont les Juifs qui ont été accusés de l'avoir assassiné. Donc on a de nouvelles lois discriminatoires encore plus redoutables sont tombées sur les épaules des Juifs et une déferlante de pogroms. En fait, il y a eu pour la seule année de 1881 215 pogroms en Ukraine, dont à Odessa, ou plutôt dans les environs d'Odessa.
Alors ces violences répétées ont eu un impact politique d'une importance considérable car elles conduisirent de nombreux intellectuels à adhérer, intellectuels juifs à adhérer au sionisme, dont je rappelle que le premier congrès eut lieu à Bâle en 1897, donc on est dans cette époque dont vous parlez, et en même temps à un engagement particulier pour la langue hébraïque, je pense par exemple à Bialik, Isabelle Némirovski.
Oui, tout à fait. Lorsque les Juifs se sont rendus compte que les demandes d'émancipation, d'intégration ne suffisaient pas et qu'ils continuaient à être victimes de pogroms, ils se sont concentrés pour essayer de trouver des solutions. Comment se sortir de cet antisémitisme qui, quoi qu'il arrive, était de toute façon présent. Et c'est comme ça que Léon Pinsker, un médecin d'Odessa, a écrit, a réfléchi avec ses coreligionnaires dans ses laboratoires d'idées que pouvaient être les cercles, les coteries, les salons littéraires. Vrais laboratoires d'idées, d'idéologie aussi, ont été conçus les premiers courants proto-sionistes. Donc, Léon Pinsker a écrit ce petit livre qui s'appelle « Auto-émancipation, avertissement à mes frères juifs russes » en expliquant qu'il fallait partir et donc d'imaginer un retour à Sion.
On peut se demander, en vous écoutant, par rapport à ce rêve intime, ce rêve d'Odessa, cette attraction, on vient de parler de toutes ces violences, de ces pogroms et de ce désir de partir, en quoi Odessa est-elle devenue ce rêve, cette nostalgie, cette attraction? Qu'est-ce qui fait que les Juifs ont eu envie de revenir et ont envie de revenir en permanence?
C'est une fascination, c'est une nostalgie, et comme toute nostalgie, difficile à disséquer, à appréhender. Mais c'est en fait cette histoire du bonheur juif, cet âge d'or des Juifs d'Odessa, où tout ce laboratoire d'idées, ce laboratoire artistique, toutes ces émanations très diverses, ces frictions entre les populations, mais ces frictions productives, très fécondes. Ce rêve d'un autre monde s'est en fait accompli. Moi, j'ai essayé de comprendre tout au long de ce travail. J'ai une question principale, est-ce qu'Odessa a été une cité de rêve ou une cité rêvée? Je pense qu'il y a un entre-deux, ou alors il y a aussi une juxtaposition. C'est comme quand vous mettez des masques, à la fin, un masque, un autre masque, un autre masque, ça finit par être le visage. Et je pense que la ville d'Odessa, c'est aussi cette juxtaposition qui ne fait plus qu'un.
Merci Isabelle Némirovski pour cette conversation passionnée et passionnante. Je vous propose de poursuivre cette histoire d'Odessa la semaine prochaine pour découvrir avec vous ce que sont devenus tous ces juifs odessites partis en exil à la suite de toutes les violences que nous venons d'évoquer et qui se sont retrouvés aux quatre coins du monde, recréant à chaque fois un microcosme odessite. Je rappelle le titre de votre très beau livre « Histoire, mémoire et représentation des Juifs d'Odessa », sous-titré « Un vieux rêve intime » aux éditions Honoré Champion. Merci encore Isabelle Némirovski.
Merci à vous, Marc-Alain Moikny.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Marie Le Peintre, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. En cette première émission de la rentrée qui ouvre aussi la 10e saison de Talmudique, Françoise-Anne Ménager, Alexandra Malka, moi-même et toute l'équipe de France Culture qui nous accompagne chaque semaine, voulions vous dire que nous sommes très heureux de vous retrouver pour partager ces temps de réflexion, de découverte et d'interrogation, pour vous remercier aussi et vous dire à quel point votre fidélité, votre écoute et vos nombreux messages nous portent et nous donnent beaucoup de joie chaque semaine. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.